Nous avons prié pour les enfants que ta lumière pénètre les ténèbres. Et nous te prions également pour nous. Nous avons encore besoin que tu nous parles. Nous avons encore besoin de refaçonner notre pensée à la lumière de ta pensée, à la lumière de ta révélation envers nous en Jésus-Christ. Donc que tu sois à l'œuvre par ton esprit et pour ta gloire, nous te prions. Amen. En juin 1902, il y avait un jeune Allemand suisse qui commençait son travail en tant qu'expert technique de classe 3 auprès de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle à Berne, en Suisse. Qui aurait su, si on travaillait à ce moment-là à côté de cet homme, lorsqu'il examinait les inventions soumises pour la brevetabilité à son bureau dans la salle 86 au troisième étage du bâtiment, qu'il allait, et cet homme qui avait du mal d'ailleurs à décrocher un travail et qui n'a pas réussi l'examen d'entrée pour ce qui aujourd'hui est connu comme étant l'École Polytechnique Fédérale en Suisse. Qui aurait su qu'il était en fait cet homme sur le point, rien que 3 ans plus tard, toujours en exerçant le même poste professionnel, de publier pendant l'année 1905, souvent appelé d'ailleurs son Annus Mirabilis, 4 articles qui réorienteront la compréhension de l'homme et la physique pour toujours. Il s'agit bien sûr de Albert Einstein. Alors j'avais demandé à Anu comment est-ce qu'on prononce son nom et je suis toujours pas sûr pour la prononciation francophone parce qu'elle m'a donné la prononciation allemande. Donc merci Anu, vous pouvez me corriger plus tard. Alors il y a un danger de sous-estimer quelqu'un, n'est-ce pas? Peut-être la personne à côté de vous va écrire l'année prochaine 3 articles, 4 articles qui vont transformer notre compréhension du monde. On ne sait pas. Mais ce qui se passe lorsque nous lisons le récit de Lévitique peut nous apparaître un peu dur, un peu dépassé, tellement loin de notre expérience de la vie quotidienne. Et que nous nous demandons peut-être après avoir fait cette lecture de Lévitique chapitre 26, quelle est la pertinence de cela dans un monde où l'avenir de l'Ukraine est en jeu, le Nord Kivu, la Syrie continue d'être menacée par la violence et la corruption, ou un monde simplement dans lequel moi je cherche l'amour, ou simplement des expériences passionnantes parce que c'est ça la vie, où je désire profiter de la vie telle que je peux dans mon contexte à moi. Et de retomber dans Lévitique 26, ça sert à quoi? Peut-être pour vous, l'Église de Jésus-Christ, ses activités peuvent vous sembler si peu importantes lorsque vous réfléchissez à votre quotidien. Mais j'aimerais vous encourager encore aujourd'hui à voir à quel point cela serait une erreur. Car les vérités qui se trouvent dans la Bible, qui se trouvent dans Lévitique 26, jouent sur l'échelle la plus grande qui soit, les amis, sur le plan de la vie et de la mort, sur le paradis et l'enfer, sur la bénédiction et la malédiction. Comment donc nous nous situons à propos de ce que nous lisons, même dans Lévitique 26, détermine en fait pour nous les choses les plus importantes qui soient. Et aujourd'hui, donc nous arrivons à la fin de la série en Lévitique, et donc à l'application d'une certaine manière de tout le livre de Lévitique dans ce chapitre 26. Car dans ce chapitre, le Seigneur met son peuple Israël devant un choix, peut-être vous l'avez remarqué lors de la lecture, un choix entre l'obéissance d'un côté et la désobéissance de l'autre côté, entre la bénédiction et la malédiction. En Lévitique, nous avons vu que le Dieu trois fois saint, il daigne de s'installer parmi son peuple dans le tabernacle, cette petite tente qui se tenait au milieu du camp. Et sa présence, la présence de Dieu, nécessitait une approche de ce Dieu qui respecte, qui reconnaît la sainteté de Dieu. Et donc, il y a eu un système de sacrifice qu'il fallait opérer, un système de pureté qui distinguait ce peuple de Dieu d'autres peuples autour d'eux. Un comportement saint qui prend aussi en compte la sainteté de ce Dieu qui demeurait parmi eux. Et donc le chapitre 26 sert comme une conclusion de tout cela. Une conclusion qui anticipe d'ailleurs la réponse qu'aura lieu par la suite dans l'histoire de ce peuple d'Israël. Oui, c'est vrai qu'il y a encore un chapitre après, le chapitre 27, après cette conclusion, mais le chapitre 27 donne aussi d'autres instructions à propos de la vie de ce peuple de Dieu, une fois qu'ils prendront possession de la terre promise, surtout concernant le rachat d'une parcelle de terre ou d'un bien. Ils font partie des instructions données directement à Moïse par Dieu depuis chapitre 25, verset 1, sur le mont Sinaï lui-même. Dieu avait donné à Moïse ses instructions. C'est aussi ce que dit le dernier verset du livre, à la fin du chapitre 27. « Tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse pour les Israélites sur le mont Sinaï. » Et le chapitre 26, donc, rappelle les enjeux pour le peuple d'Israël de tous ces commandements. Et la structure de ce chapitre est simple. Le verset 3 commence avec un « si ». « si » accompagné d'une hypothèse positive de leur obéissance et donc la description de ce qui aura lieu par la suite de cette obéissance. Mais le verset 14 commence aussi avec un « si », mais cette fois, c'est de façon négative. « Mais si vous ne m'écoutez pas et ne mettez pas tous ces commandements » en pratique. Voici ce qui aura lieu. Et donc ça nous mène à le plan que nous avons sous nos yeux sur ce livret. Donc d'abord notre premier point, ce qui se produit lorsque Dieu est présent parmi son peuple, la bénédiction. Verset 3 jusqu'au verset 13, ce qui se produit lorsque Dieu est présent parmi son peuple, la bénédiction. Parce que ces versets prévoient la bénédiction pour le peuple d'Israël. Si vous avez parcouru ces versets lors de la lecture, vous avez entendu parler des récoltes abondantes qu'ils auront aucune menace de la part des ennemis qui les entourent. Ils auront du sommeil tranquille. Ils auront des victoires écrasantes sur tout ennemi, malgré la force apparente supérieure de ces ennemis. Il y aura également un peuple grandissant, en lien avec les promesses de l'alliance avec Abraham, de rendre son peuple nombreux. Et ensuite, la promesse de la présence de Dieu lui-même parmi eux. Mais le comble donc de ces bénédictions, c'est une présence de Dieu encore plus proche de ce qu'ils ont connu jusque-là, même dans le tabernacle. Verset 12, « Je marcherai au milieu de vous, « je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. » Alors, est-ce que vous entendez cela? Parce que la dernière fois que Dieu marchait au milieu de son peuple, c'était quand? Oui, c'était dans le jardin d'Éden, un jardin verdoyant, un lieu sécurisé. Dans ce lieu-là, Dieu marchait dans le jardin pour parler avec Adam et Ève. Et donc ici, Lévitique 26, Dieu signale, comme nous l'avons déjà eu l'occasion de le remarquer, qu'il est en train de renverser l'éloignement qui a eu lieu lors de la chute de l'homme, lorsque l'homme avait été banni du jardin à l'est d'Éden, là où il y avait, et nous l'avons aussi vu pendant cette série, à l'est d'Éden, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la malédiction, il y avait la mort, il y avait la difficulté, il y avait la souffrance. Et donc Dieu prévoit la restauration parfaite de l'homme avec Dieu. Et cela donne suite à une parfaite harmonie et paix entre l'homme et la création elle-même. Tout tourne bien comme il devrait tourner. Alors, à ce stade, ceci est une promesse qui s'adresse à Israël en tant que peuple qui est sur le point d'entrer la terre promise. Il ne s'agit pas, à ce stade, d'une promesse adressée à des individus afin d'hériter la vie éternelle. Dit exemple, si Dieu promet au verset 4 du chapitre 26 d'envoyer des pluies en la saison, nécessaire bien sûr pour un pays verdoyant et des récoltes abondantes, ce n'est pas quelque chose qu'il promet rien que à un individu, à Simeon par exemple, qui habite à Liège, on s'imagine. Et donc si Simeon, lui, il obéit, mais si Steve, lui qui obéit, Steve c'était pas vraiment un nom hébraïque, mais bon, si lui habite à Odergem, si lui il n'obéit pas, alors il y aura pas de pluie pour lui. Non, ça s'applique ici de façon collective à tout un peuple, tout le peuple de l'ancienne alliance. Et cela doit nous freiner lorsqu'on essaie d'appliquer trop vite ces promesses directement à nous, des promesses de bénédiction si nous obéissons. C'est l'un des dangers d'un prédicateur peut-être enthousiaste qui veut encourager le peuple de Dieu d'obéir à Dieu. Obéir, mes amis, à Dieu, et vous voyez, vous serez bénis. C'est facile de le dire, mais qu'est-ce que cela signifie ? C'est le piège que nous appelons parfois l'évangile de la prospérité. Que si seulement nous obéissons suffisamment à Dieu, alors là, il y aurait des bénédictions pour nous, dans nos familles, dans nos églises, dans nos carrières respectives. Nous, à l'église de Woloué, ne serions peut-être pas aussi grossières de nous exprimer en ces termes. Je l'ai pas entendu comme ça. Mais nous pouvons néanmoins faire preuve de sentiments semblables lorsque nous sommes préoccupés tout de même par des bénédictions liées à ce que Benjamin, pasteur adjoint ici, appelle notre bien-être ici-bas. Et d'ailleurs, dans le préface de ce livre que je vous ai recommandé, Ben, il donne quelques indices des signes que peut-être nous poursuivons encore à nos jours un évangile de bien-être. Donc voici, je cite la préface. Voici quelques indices qui prouvent que nous croyons en une certaine version de l'évangile de la prospérité. Lorsque nous pensons qu'un frère ou une sœur souffrant irait mieux si elle ou il priait davantage. Lorsque nous pensons que Dieu n'est pas juste ou bon quand il nous fait passer par des difficultés. Lorsqu'en pensant aux bénédictions de Dieu dans notre vie, nous pensons prioritairement à des choses matérielles plutôt qu'à des réalités spirituelles. Lorsque nous avons plus de joie dans les choses de ce monde que dans la bonne nouvelle du pardon des péchés. Lorsque nous pensons que si quelqu'un n'est pas marié, ou qu'un couple n'a pas d'enfants, c'est probablement qu'il y a un problème spirituel dans leur vie. Lorsque nous trouvons qu'il est presque normal que Jésus soit mort sur la croix pour payer pour nos péchés. Lorsque nous ne sommes pas prêts à renoncer un peu de notre confort pour suivre Jésus. Alors, appliquer Lévitique 26 de cette façon-là, si nous obéissons, alors nous allons voir des bénédictions matérielles dans notre vie, est une erreur. Car c'est, nous ne sommes pas le peuple d'Israël. Nous ne sommes pas sur le point d'entrer dans la terre d'Israël. Mais les bénédictions ici pointent vers une réalité encore plus grande qu'Israël a connue. À savoir donc le rétablissement de toutes choses. Dieu parmi les hommes, de façon intime, de façon permanente. La création qui fonctionne telle qu'elle devrait fonctionner. La vie dans toute son abondance, un monde sans crainte, sans peine, sans tristesse. Le plan de Dieu termine, vous voyez, non pas sur une petite parcelle de terre au Moyen-Orient, mais plutôt avec un nouveau ciel et une nouvelle terre, avec la Jérusalem d'en haut, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Voilà pourquoi vous avez la citation d'Apocalypse 21 au milieu donc de votre livret, juste en dessous du code QR, le dernier texte, là, verset 3, qui parle donc de cette réalité encore à venir. Dit quoi? J'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Ça fait écho, n'est-ce pas, de ce qu'il dit en Lévitique 26. Et que fera-t-il, verset 4? Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Donc voici, chers amis, ce qui se passe lorsque Dieu est présent parmi son peuple, lorsqu'il demeure définitivement avec son peuple. Qu'est-ce qui se passe? Bénédiction. Il bénit définitivement. Et parfois, nous avons tendance à dire que sous la Nouvelle Alliance, les bénédictions sont uniquement spirituelles au lieu d'être physiques et matérielles. Et d'une certaine manière, bien sûr, cela est vrai, car Dieu, en temps normal, promet sous la Nouvelle Alliance pour des chrétiens pas plus que de quoi manger et boire, de quoi vêtir, de à toi au-dessus de notre tête. Il ne promet pas plus que cela. Et sinon, nous continuons même en tant que croyants à vivre dans un monde où il y a encore aujourd'hui. Il ne faut pas que nous soyons aveugles à cette réalité. La maladie, la tristesse, la mort, c'est cruel en fait de faire croire aux autres, à ceux qui croient en Jésus-Christ, que si nous venons à Jésus-Christ, que nous ne serons plus exposés à ces choses-là. C'est un mensonge. Mais, d'une autre manière, ce n'est pas vrai de dire que nos bénédictions sont uniquement spirituelles. Car les bénédictions de la nouvelle création dont nous venons d'entendre sont bel et bien matérielles, physiques. La nouvelle Jérusalem, les corps ressuscités qui n'auront plus de maladie ou de la mort. Nous serons physiquement, réellement dans la présence de Dieu où tout ira enfin bien. Lui-même, il essuiera toute larme de nos yeux. Donc, c'est pas que ceux qui proclament l'évangile de la prospérité promettent de trop d'une certaine manière. Non, dans un sens, ils ne promettent pas assez. Ils mettent le regard ici-bas, à tort, car les bénédictions supérieures dans la présence de Dieu sont encore à venir lorsque Jésus-Christ reviendra. Ce qui se produit donc lorsque Dieu est présent parmi son peuple, la bénédiction. Combien c'est triste de croire que le meilleur se limite à ce que cette vie peut nous offrir. Un ami me disait rien que cette semaine qu'il avait assisté à des funérailles de quelqu'un qui n'était pas croyant en Jésus-Christ. Et ce qui l'avait frappé, c'était le manque d'espoir au-delà de cette vie. À part quelques platitudes à propos de l'amour qui demeure et une tentative de se faire croire que la personne vit encore dans nos cœurs, il n'y a rien d'autre face à la mort. Dans toutes les heures consacrées aujourd'hui par nos amis, peut-être par nous-mêmes, aux idoles de notre monde, le travail, le divertissement, la famille, les chouettes expériences, le sport et ainsi de suite. Mène à quoi une fois que la mort entre en jeu? Mène à rien. La Bible parle de l'homme sans Dieu et par conséquent quelqu'un qui est sans espérance. Mais le Dieu de toutes ces bonnes choses qu'il donne, donne encore ce qui est de loin meilleur. Un avenir dans sa présence pour toujours.
ce qui se produit lorsque Dieu est présent parmi son peuple, la bénédiction. Mais deuxièmement, ce qui se produit lorsque les hommes se détournent de Dieu, la malédiction. Lévitique 26 soulève aussi le revers de la médaille. Le temps est bien établi à partir du verset 14, mais si vous ne m'écoutez pas et ne mettez pas tous ces commandements en pratique, si vous méprisez mes prescriptions et si vous montrez du dégoût envers mes règles au point de ne pas mettre tous mes commandements en pratique et de rompre mon alliance. Donc, vous voyez, il ne s'agit pas de désobéissance ici à des lois impersonnelles, arbitraires. Non, il s'agit d'un rejet de Dieu lui-même. Car il est question de ne pas écouter ce Dieu, de mépriser ses prescriptions, de montrer du dégoût envers ses commandements. Dès le début, l'écho donc de la rébellion d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden est là aussi en Lévitique 26. Un détournement de Dieu. Et ce qu'il dit, un manque de confiance en lui, une confiance accordée dans d'autres voies que celles de Dieu. Et c'est tragique. Il ne s'agit pas ici donc d'un péché parmi d'autres, d'ici et là. Non, après tout, la loi de Moïse, de Lévitique, prévoyait des sacrifices pour le péché. Non, ici, il s'agit de rompre carrément avec l'Alliance. Une désobéissance flagrante d'abandonner Dieu qui les a délivrés. Et donc les malédictions font également écho de l'expulsion de l'homme du jardin d'Éden. Verset 16, j'enverrai sur vous la terreur. Tout comme la terreur qu'ils expérimentaient Adam et Ève lorsqu'ils essayaient de se cacher de Dieu dans le jardin, conscients de leur péché. Vous semerez vos semences pour rien, car ce sont vos ennemis qui les mangeront. Verset 19, je briserai la force qui fait votre orgueil. Je rendrai votre ciel pareil du fer et votre terre pareil du bronze. Votre force s'épuisera inutilement. Votre terre ne donnera pas ses produits. Les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. La terre, comme en Genèse, chapitre 3, sera maudite. Et verset 25, ils mourront. Je ferai venir contre vous l'épée, chargée de venger l'Alliance. Quand vous vous rassemblerez dans vos villes, j'enverrai la peste au milieu de vous, et vous serez livrés aux mains de l'ennemi. Tel sera donc le désordre et le malheur qu'ils iront, jusqu'au cannibalisme. Oh, verset 29. Quelque chose qui prendra forme dans l'histoire d'Israël, lors du siège de Jérusalem, au moment où le peuple est sur le point d'être envoyé en exil. Ce qui est également prévu au verset 33. « Je vous disperserai parmi les nations, et je daignerai l'épée pour vous poursuivre. Votre pays sera dévasté, et vos villes seront désertes. » Le portrait est terriblement, terriblement triste, les amis. Au lieu d'être donc en sécurité, en abondance, le peuple vivra dans la terreur, à la proie de leurs ennemis. Verset 36, « Ceux parmi vous qui se vivront, je remplirai leur cœur d'angoisse dans les pays de leurs ennemis. Le bruit d'une feuille agitée les poursuivra. Ils prendront la fuite. Comment on le fait devant l'épée? Ils tomberont sans qu'on les poursuive. Ils trébucheront les uns sur les autres, comme devant l'épée, sans qu'on les poursuive. Vous ne subsisterez pas en face de vos ennemis. » Alors ici, il s'agit de la malédiction prononcée à l'homme lors de la chute de l'homme en Genèse chapitre 3. En long et en large, voici ce qui se passe lorsque nous nous détournons du Dieu. Le Dieu qui est là, qui est la source de toute bénédiction. Ce qui se passe, c'est qu'il se détourne de nous. Il s'éloigne de nous. Il nous livre aux conséquences de nos fautes. Ici encore, il faut faire attention à la spécificité de ces malédictions pour le peuple d'Israël sous l'Ancienne Alliance. Lorsque Dieu envoie une plaie, ce n'est pas rien qu'à des individus coupables, vous voyez, c'est à tout un peuple. Lorsqu'il envoie en exil, c'est pas rien que des individus désobéissants, c'est à tout un peuple sous l'Ancienne Alliance. Mais le principe que ces malédictions soulignent est celui-ci. La malédiction est la conséquence lorsque les hommes se détournent de Dieu. Nous ne pouvons pas dissocier l'appartenance à notre Dieu d'une obéissance à notre Dieu. Cela est vrai même sous la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Et c'est bien pour cela que je cite aussi dans les autres textes que j'ai mis dans le livret, les propos de l'apôtre Jean, chapitre 3 de son évangile. « Celui qui met sa foi dans le Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse d'obéir au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Vous entendez peut-être cela. Ce n'est pas simplement, vous voyez, un contraste entre celui qui croit et celui qui ne croit pas. Comme si le fait de ne pas croire en Jésus est simplement un choix perso qui n'a rien à voir avec un cœur obéissant ou désobéissant. Toi, tu crois, et c'est bien pour toi. Moi, je ne crois pas, mais cela aussi, c'est très bien pour moi. C'est un choix un peu neutre, si vous voulez. Non, pas en tout cas selon le Dieu en qui tu choisis de ne pas croire. C'est plutôt un acte de rébellion. Celui qui refuse d'obéir au Fils au lieu de croire au Fils. Et quelle sera la conséquence de cet acte pour une telle personne? La malédiction. Pas d'être renvoyé de la terre promise ou de vivre en insécurité. Non, cette malédiction de Lévitique 26 pointe le doigt vers une malédiction encore plus conséquente, grave, éternelle. Celui qui refuse d'obéir au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Les enjeux ici sont éternels, les amis, de se retrouver sous la colère de Dieu, exclu donc de son royaume, privé de toute bénédiction. Tel est le sort de celui qui ne se tourne pas par la soumission et l'obéissance à Jésus-Christ. Quelques versets plus loin dans Apocalypse 21, après les versets que vous avez sur le livret, le verset 7 d'Apocalypse 21 nous dit ceci. « Tel sera l'héritage du vainqueur, je serai son Dieu, il sera mon fils. » Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de soufre. Cela, c'est la seconde mort. Encore une fois, il ne s'agit pas ici donc d'une théologie de mérite selon nos bonnes œuvres. Non, il s'agit ici d'un peuple attaché et soumis à leur Dieu. Et tout le long de Lévitique, nous avons appris qu'il faut que si Dieu peut demeurer parmi son peuple, le peuple doit à son tour refléter la sainteté de ce Dieu. Vous serez saints comme moi, je suis saint. Sans la sainteté, nous dit le Nouveau Testament également, personne ne verra le Seigneur. La désobéissance, le rejet de Dieu, de Jésus-Christ, égale malédiction. Mais s'il y a une différence entre eux, le peuple de l'Ancienne Alliance, et nous, le peuple en Jésus-Christ de la Nouvelle Alliance, c'est que la Nouvelle Alliance pourvoit, merci Seigneur, des moyens définitifs par lesquels une telle sainteté est possible. Et cela nous pousse donc à notre troisième et dernier constat de ce texte Lévitique 26. Ce sur quoi nous pouvons compter pour être bénis par Dieu, la fidélité de Dieu envers ses promesses de sauver. Ceci, c'est à partir du verset 40 dans le livret, je pense que j'avais mis verset 44 à la place de verset 40. C'est de verset 40 jusqu'à la fin du chapitre. Mais rappelons-nous, nous sommes face à des réalités grandioses. Nous pouvons d'en faire face à la bénédiction éternelle ou à la malédiction définitive. Comment devons-nous se reparer, pour ne pas se tromper? Alors le texte termine en envisageant un moment dans l'avenir où Israël reconnaîtra sa faute, verset 40, son infidélité. Et là, après des années éloignées, verset 42, « Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, avec Isaac, avec Abraham, et je me souviendrai du pays. » Pas dans le sens où il avait oublié, bien sûr, mais dans le sens où il tiendra parole. Il sera fidèle à ce qu'il a dit. Et dans verset 44, « Lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai pas, et je ne montrerai pas de dégoût envers eux, au point de les exterminer, au point de rompre mon alliance avec eux, car je suis l'Éternel, leur Dieu. » D'où vient donc l'espoir pour ce peuple? L'accent ne tombe pas sur leur propre performance, vous voyez, sur leur obéissance, mais l'accent tombe sur la fidélité de Dieu à ses promesses, sur sa performance à lui, si vous voulez. Car lui, contrairement à l'homme, il est fidèle à ses promesses. « Je suis l'Éternel, leur Dieu. » Verset 45, « Je me souviendrai en faveur de l'ancienne alliance par laquelle je les ai fait sortir d'Égypte aux yeux des nations pour être leur Dieu. Je suis l'Éternel. » Dieu s'est engagé à bénir le peuple qu'il a sauvé d'Égypte. Et c'est bien cet engagement qui est le fondement pour l'espoir de ce peuple d'Israël au moment où il se trouve en exil, loin de la terre promise, loin de la bénédiction promise. Car Dieu n'a pas choisi ultimement son peuple, car le peuple était sympa, talentueux, ou nombreux, ou impressionnant, ou moralement supérieur aux autres peuples. Non, il les avait choisis car il les avait choisis, car il avait décidé souverainement, dans sa grâce, de les bénir. Alors, pour nous aider avec ça, j'aimerais me servir du mariage comme un exemple. Ne vous inquiétez pas de mon mariage, mais ça s'applique également à mon mariage, bien entendu. C'est juste de penser à l'image d'un mariage lorsqu'on pense de la relation entre Dieu et son peuple, car la Bible emploie l'image du mariage pour décrire la relation de Dieu avec son peuple. Souvent à l'extérieur, c'est pas facile de discerner les mariages en difficulté, vous savez. Pourquoi? Car lorsque nous montrons la face publique de notre couple, nous sommes conscients du regard des autres et nous faisons un effort pour montrer notre meilleure face. On se tait lorsque l'autre fait une bêtise, on sourit lorsqu'il ou elle dit quelqu'un qui ne convient pas. Mais dans le privé, lorsque les autres ne nous voient pas, le contrôle qu'exerce le regard extérieur tombe. On devient plus vite irrité avec notre conjoint en privé, plus ouvert dans nos critiques, plus insistant sur notre propre manière de fonctionner. On cherche à insister que l'autre doit être à la hauteur de mes exigences. Et petit à petit, cela a quel effet sur l'autre? La peur et la crainte de devoir plaire, sinon il sera rejeté. Ça terminera par la séparation. Un tel couple, il faut le dire, est en danger. Car les meilleurs mariages ne dépendent pas de la performance de l'autre, mais se reposent sur les promesses que nous avons faites l'un auprès de l'autre. Voici ce que nous disons dans beaucoup de mariages auxquels moi je préside. Moi, je ne sais pas moi, mais c'est la personne, le marié qui dit, « Je promets de te demeurer attaché pour le meilleur et pour le pire, dans la prospérité, dans la pauvreté, dans la maladie, dans la santé. Je promets à t'aimer et à te chérir. C'est ainsi que notre confiance au sein du couple ne se repose pas sur ma performance ou sur la performance de l'autre, mais plutôt sur les promesses que nous avons données à l'autre. Et c'est beau lorsqu'on vit cela au sein de nos couples. Vous pouvez prier pour cela au sein des mariages représentés dans cette église. Car c'est précieux, le peuple de Dieu de l'ancienne alliance, exposé à sa rébellion, à sa désobéissance, ne pouvait réclamer qu'une seule chose auprès de Dieu, la fidélité de Dieu envers ses promesses. Et si cela était vrai pour le peuple de l'ancienne alliance, combien à plus forte raison c'est vrai pour le peuple de la nouvelle alliance? Parce que nous voyons encore plus clair la fidélité de Dieu envers nous. Car ce que l'ancienne alliance anticipait, la nouvelle alliance annonce l'accomplissement de ce qui avait été anticipé. Vous avez aussi dans le livret Galates chapitre 3, deux versets de cet épître. Christ, verset 13, Galates 3, nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. Puisqu'il est écrit, tout en pendu au bois et maudit, c'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Christ, par sa mort à la croix, est maudit à ce moment-là par Dieu, tout en étant Dieu. Il expérimente ainsi la colère de Dieu qui devait plutôt reposer sur nous. L'éloignement de Dieu, la punition de Dieu. Mais pourquoi, dit le texte, fait-il cela pour nous, en devenant malédiction pour nous, à notre place? Et c'est ainsi que la bénédiction d'Abraham, de faire partie donc de ce peuple privilégié, qui a une espérance de toute une nouvelle création, de leur péché pardonné, cette promesse touche à des non-juifs, tout comme nous le sommes ici présents. Comment? Par la foi en Jésus-Christ. La confiance, la dépendance dans ce qu'il a fait pour nous en Jésus-Christ. Vous savez, dans la liturgie pour des couples qui se marient au sein de notre Église, lorsque le couple se dit prêt à s'engager, à aimer et à chérir l'autre, qu'est-ce qu'ils ajoutent? Comme le Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Ça, c'est le modèle pour un mari et pour une femme au sein d'un couple. Et cela est le fondement de notre confiance en tant que croyants en Jésus-Christ, d'être bénis définitivement par notre Dieu. Son amour pour nous en Christ, un amour immérité, coûteux, précieux. Ainsi, chers amis, nous recevons une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes, mais par l'Esprit de Dieu lui-même, l'Esprit Saint dans nos cœurs, car nous recevons par la foi, nous dit ce texte en Galates, l'Esprit qui avait été promis. Et cet Esprit, il est saint et il œuvre en nous. Il nous transforme. Oui, pas encore parfaitement, mais néanmoins de façon authentique. Romains chapitre 8, verset 13, que vous n'avez pas sûr de livrer, « Si par l'Esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez pour l'éternité. » Lévitique donc termine avec cet appel de nous tourner vers Dieu pour recevoir la bénédiction de sa part, au lieu de nous détourner de lui et de faire face à sa malédiction. Et la grande joie immense du peuple de la Nouvelle Alliance, c'est que par la foi en Jésus-Christ, il nous a fourni, Dieu, le moyen définitif d'éviter la malédiction et de nous accorder la bénédiction. Sa promesse de sauver tous ceux qui dépendent de lui, cette promesse tient encore. Donc peut-être vous n'êtes pas à côté d'Einstein, ici en 2025. Mais de par la simple confiance ou la simple confiance en Jésus-Christ, la personne à côté de vous est capable de transformer sa vie pour toujours, capable de vivre sous la bénédiction de Dieu pour l'éternité. Il n'y a rien de plus précieux que cela. Alors avec ça, nous terminons, chers amis, notre série dans le livre de Lévitique. Et j'aimerais vous lire deux, trois versets encore d'Apocalypse 21. Et ensuite, je vais prier pour nous. Prions ensemble. Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. » Il me dit, « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu. » Et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de soufre. Cela, c'est la seconde mort. Seigneur, c'est dans la crainte et le tremblement que nous venons devant toi avec ces enjeux de bénédiction et de malédiction sous nos yeux. Mais c'est dans la confiance en ta fidélité, en tes promesses envers nous, en Jésus-Christ, que nous réclamons Jésus et ce que sa mort à notre place signifie. Combien nous te louons qu'il est devenu malédiction pour nous, afin qu'en lui nous puissions trouver la vie éternelle. Que tu nous aides donc, Seigneur, à vivre à la lumière de ces réalités, à, par l'Esprit qui œuvre en nous, à mettre à mort les agissements du corps. Que ton nom soit glorifié dans la vie de chacun d'entre nous. Et cela pour ta seule gloire, nous te prions. Amen.